9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de recevoir ce dimanche matin Monsieur Henri Kukierman. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à Beurre FM. Vous êtes là, Monsieur Henri Kukierman. Vous êtes le président du comité Vérité et Justice pour Charonne. Et nous allons évidemment parler encore d'une page d'histoire, une page sombre de l'histoire. Ce qui fut le crime d'État au métro Charonne le 8 février 1962. Je vais rappeler aux auditeurs, aux auditrices que ce dimanche matin, dans ces prochaines semaines, nous aurons un rendez-vous avec l'histoire. En ce début 2022, Voix au chapitre consacrera une série d'émissions commémorant le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie pour certains et de ce que fut la guerre de libération pour les Algériens ici en France et en Algérie. Parler de la guerre d'Algérie de ce côté, c'est rappeler l'engagement de la communauté algérienne immigrée. Travailleurs de l'automobile, du bâtiment ou de la sidérurgie, ils prennent part à la lutte algérienne dans cette guerre de libération. Au quotidien, ils subissent la violence policière, interpellations, contrôle aux faciès. Le préfet de police, Maurice Papon, son ministre de l'Intérieur, Roger Frey, et le président de la République de l'époque, Charles de Gaulle, tous laisseront faire cette violence policière. La violence policière, elle est sanglante. Elle aura commencé en octobre 61. Un couvre-feu. Les Algériens manifestent pour s'opposer à ce couvre-feu. Interdit de sortir de 18h à 6h du matin. Et ils iront dignement près de 30 000 manifester à Paris. Mais la répression est terrible. Des dizaines d'Algériens seront massacrés, roués de coups et jetés dans la Seine. Près de 200 morts seront constatés aux archives fluviales et aux archives des hôpitaux de Paris. La mémoire est têtue. 60 ans après, il aura fallu que le combat continue pour la reconnaissance de ce moment et de ce crime que fut le massacre des Algériens le 17 octobre 61. Il en est un autre, une date essentielle dans cette fin de guerre, 8 février 1962. Pour cela, nous parlerons au cours de ce rendez-vous de Voix au chapitre ce dimanche matin avec notre invité, Henri Kukierman, de ce que fut la manifestation du 8 février 62. La rappeler brièvement à l'appel du Parti communiste français et de la CGT, une manifestation est organisée, une organisation avec d'autres associations et partis politiques progressistes, une manifestation qui sera interdite par la préfecture. Manifestation contre l'OAS, elle se terminera elle aussi dans la violence et dans le sang, à la bouche du métro Charonne, où les manifestants tentent de s'introduire pour éviter les coups. Ils seront 8 personnes trouvées mortes, sous les coups, écrasées et étouffées. Une neuvième personne décédera à l'hôpital. 8 février 62, 60 ans après, une mobilisation toujours déterminée, le comité Vérité et Justice pour Charonne commémorera ce 8 février 2022 un rendez-vous avec cette histoire qui n'est pas encore nommée crime d'État. Vous pouvez, après cette introduction que j'ai essayé de faire brièvement, Henri Kukierman, nous rappeler le contexte de l'époque quant à l'organisation de la manifestation, pour donner aux auditeurs, aux auditrices, à comprendre ce que fut Charonne, comme on l'entend, la manifestation de Charonne, mais elle avait un but, elle avait aussi une organisation. Comment cela s'est-il passé, si vous le voulez bien?
Alors d'abord, préciser que la manifestation n'était pas organisée par le Parti communiste et la CGT, mais elle s'est faite à l'appel des syndicats, CGT, la CFTC, la CFDT.
Oui, j'ai rappelé qu'il y avait d'autres organisations syndicales,
oui,
et progressistes.
Mais l'appel, c'est
un ensemble.
C'est voilà, la CGT, la CFTC, l'UNEF et les organisations syndicales lycéennes, avec l'appui du Parti communiste, du PSU à l'époque, voilà, et du Mouvement de la Paix et d'autres associations. Voilà, tout précisé. Et concernant les conditions dans lesquelles les choses se sont faites, d'abord, faut savoir que cette manifestation s'est faite à la suite de 10 attentats qui, le 7 février, 10 attentats contre diverses personnalités qui étaient favorables à l'autodétermination des Algériens, dont André Malraux, Raymond Guyot, qui était un dirigeant du Parti communiste, des personnalités comme Vladimir Posner, qui était écrivain. Enfin, il y avait 10 attentats. Et au cours de ces attentats, André Malraux n'était pas chez lui. une fillette dans l'appartement à côté a été grièvement blessée et deviendra aveugle. Et dès le mercredi soir de cette journée du 7 février, les organisations syndicales ont pris l'initiative de se rencontrer avec les partis qui décidaient également de soutenir. Et la manifestation a été immédiatement annoncée pour le soir du 8 février. Cette manifestation a été interdite par le préfet et le ministre de l'Intérieur, puisque c'est le ministre de l'Intérieur qui, en dernier sort, décide. Et voilà, cette manifestation intervenait après des centaines d'attentats commis par l'OAS, et toutes les brutalités policières qui se sont exercées. On parlait du 17 octobre contre les Algériens, mais il y a eu des brutalités importantes contre d'autres manifestations, et notamment une manifestation organisée par les syndicats en décembre, fin décembre 61. Il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu des blessés. Il y a eu une intervention brutale des forces de police. Et il y a eu de nouveaux attentats durant janvier 62. Et donc, les attentats du 7 février avec cette ces blessures graves de Delphine Renard ont amené les organisations à réagir immédiatement. Voilà.
Vous étiez, Henri Kuckermann, de la manifestation avec votre épouse Yvonne, et vous étiez nombreux ce jour-là à la manifestation. Combien on comptait de manifestants, manifestantes à la manifestation le 8 février?
Les chiffres sont toujours difficiles à prouver, d'autant plus que c'était pas qu'une manifestation, c'était 5 rassemblements. Compte tenu de l'interdiction, il y avait eu 5 lieux de rassemblement. Et l'évaluation, elle a été entre 30 et 60 000 participants aux diverses manifestations qui se sont déroulées.
Voilà. Et elle était composée de ceux que vous avez nommés tout à l'heure, d'organisations syndicales, politiques, étudiantes.
Oui.
Tout le monde se retrouvait, les citoyens, citoyennes, se retrouvaient dans cette manifestation face à la violence extrême que menait l'OAS sur le territoire national, puisque c'était sur le territoire national qu'il opérait, et particulièrement sur Paris.
Oui, il faut dire que la manifestation de Charonne, enfin l'arrivée, ce qu'on parle de Charonne, c'est la brigade spéciale de la police qui est intervenue, sur ordre, bien sûr, du préfet, du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre Michel Debré. On peut pas penser, on sait que ces hommes-là étaient
couverts
ultra-Algérie, plutôt, Algérie française. Voilà, et il y a eu des brutalités dans d'autres lieux de manifestation qu'il y a eu là, boulevard Beaumarchais, etc., mais ils n'ont pas eu la gravité de celle qui a eu au métro Charonne. Il y avait une brigade spéciale avec les bidules. Peut-être avez-vous entendu parler
bien sûr
de cela.
Les bidules opéraient déjà en octobre 61.
Oui, oui. Mais ça fait des années déjà que le préfet de police Bello et Papon utilisaient ces bidules pour manifester avec force leur volonté de tuer,
frapper.
De frapper, c'était voilà. Donc une brigade spéciale qui avait été mise en forme, si je puis dire, pour tuer. Je pense qu'on peut le dire. Il y a eu, on a des témoignages, avec le bidule, des gens qui ont eu le crâne fracassé, parce que c'est une arme blanche particulièrement importante, et il y a eu ceux qui sont décédés
Des suites de leurs blessures et des coups.
Oui, mais non, mais il y a eu sur les marches d'escalier, il y a eu les grilles d'arbres en fonte, les grosses grilles, il y a eu les tables en fonte. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où on a des tables en plastique et en aluminium qui sont légères. Il y avait les tables avec les pieds en fonte, et il y a des tables qui ont été jetées par les policiers sur les
manifestants,
sur les manifestants qui descendaient
les escaliers du
métro Charonne.
La violence policière de l'époque, elle était extrême, vous venez de le souligner avec force, mais elle était aussi couverte par les supérieurs. Maurice Papon était couvert par Frey, qui lui-même était couvert par le Premier ministre, qui lui-même était... tout était permis.
Oui, absolument.
On laissait faire vraiment.
Si vous voulez, sur Charonne et les brutalités policières, il y a un ouvrage particulièrement important, très important, celui d'Alain Deverpe, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un ouvrage considérable, et Alain Deverpe explique toutes les brutalités policières, l'histoire des brutalités policières de l'époque. C'est évident que le gouvernement, et y compris le général de Gaulle, ont été au courant. Si vous voulez, dans son livre, Alain Deverpe souligne que toutes les archives qu'il a pu consulter, c'est un livre qu'il a mis plusieurs années à écrire, hein, parce que c'est important, les seules qu'il n'a pas pu consulter comme archives, c'est celles du Conseil des ministres. Il a eu tout ce qu'il expose dans son livre, mais pas celle du gouvernement, parce que...
Secret défense.
Parce qu'on ne voulait certainement pas connaître quelle a été la position du gouvernement suite à cette tuerie.
Encore aujourd'hui, d'ailleurs, les archives du gouvernement sont... On a parlé pour ce, justement, 60e anniversaire d'ouverture des archives de la guerre d'Algérie, mais Benjamin Stora l'a rappelé... à ce même micro, il y a quelques semaines, en réalité, toutes les archives ne sont pas ouvertes.
Ah non.
Les archives de la police, notamment, ne sont pas ouvertes. Il y a des archives qui ont disparu aussi.
Oui. Et puis, il y a des archives qui n'existaient pas. Parce que l'armée tuait, en Algérie, par exemple, assassinait, et il n'y a pas d'archives. Il a fallu attendre plus de 50 ans pour que des officiers, des généraux... disent oui, la torture fallait le faire, hein, Bijard, etc.
Au Sarès,
voilà. Et donc, il y a les archives qui ne sont pas ouvertes, que même le gouvernement cherche à restreindre d'une manière. Les lois, les décrets qui ont été pris tendent à restreindre l'ouverture d'archives. Et puis, il y a donc ce qui a existé en Algérie. Et pour lequel il n'y a pas d'archives.
Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Henri Kuckermann. Il est président du comité Vérité et Justice pour Charonne. Et nous évoquons 60 ans après ce que fut le crime d'État au métro Charonne à la fin de la manifestation le 8 février 1962.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Poursuivons notre rendez-vous de voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Henri Kuckermann. Il est président du comité Vérité et Justice pour Charonne. Nous évoquons ce que fut le crime d'État qui était au métro Charonne le 8 février 1962, une répression policière sanglante. Je rappelle que un livre est paru, un ouvrage collectif dirigé par le comité Vérité et Justice pour Charonne. Il est paru aux éditions Le Temps des Cerises, où l'on retrouve de nombreux témoignages de manifestants et manifestantes qui étaient donc le 8 février 62 à cette manifestation. Un extrait justement du témoignage d'Yvonne et Henri Kuckermann. Nous avions dépassé le carrefour de quelques dizaines de mètres lorsque les policiers, alignés sur toute la largeur du boulevard Voltaire, se mirent à charger. Un policier asséna un coup de matraque sur la tête d'Yvonne et je mis mes bras sur sa tête. Après m'avoir administré quelques coups sur les bras, il s'arrêta pour continuer à avancer avec son groupe. C'est alors que nous avons pu voir de l'arrière la charge policière et les forces de police qui descendaient le boulevard. Il y avait des dizaines et des dizaines de rangs de policiers qui avançaient au pas de charge. C'était impressionnant. Il ne s'agissait pas de stopper la manifestation, c'était une véritable agression. Nous avons alors remonté le boulevard Voltaire et sommes entrés dans la première station de métro. C'est le soir aux informations et surtout le lendemain que nous avons eu connaissance des conséquences dramatiques de ces charges policières auxquelles nous avions assisté. Nul doute que des consignes ont été données aux forces de police. Il y avait bien là préméditation. C'est ce que vous écrivez dans ce livre, Henri Kuckermann. C'est vraiment, vous le dites, aujourd'hui et encore avec émotion quand vous témoignez dans cette émission d'être allé à la manifestation et puis de rappeler l'histoire. Vous avez l'ultime conviction que c'était ça, que la police était là. On est à quelques semaines de des accords et d'une signature probable de la fin de la guerre, mais comme en 61, en 62, la répression est sanglante.
Oui, oui, bien sûr que il y avait la volonté. Faut quand même savoir que quand il y a eu cette charge, enfin juste avant cette charge, le commissaire qui dirigeait, puisqu'il y a toujours un commissaire qui dirige les brigades de police, ça là, c'était une brigade spéciale, mais qui dirige, s'est vu refuser d'arrêter la charge. Enfin, il y avait les responsables syndicaux qui étaient présents, qui ont essayé de négocier avec lui. Et Léo Figuère, qui était un conseiller général et maire de Malakoff, était présent aussi, puisque... Et le commissaire a fait charger contre cela. Léo Figuère a été blessé à ce moment-là, et il a donné l'ordre de la charge. Il ne l'a pas fait tout seul. Un commissaire de police dans une manifestation est en relais constant avec le préfet de police. Et le préfet de police étant en contact permanent avec le ministère de l'Intérieur. C'est une évidence qu'il y avait une volonté de frapper lourdement les manifestants.
Alors, 60 ans après, où en est-on de nommer l'histoire, c'est-à-dire le titre de votre livre est fort, Un crime d'État, Maître Charonne, 8 février 62. On parle de crime d'État aussi quand on parle du 17 octobre 61. On parle de crime d'État dans ce que fut cette répression sanglante des manifestations. Au jour d'aujourd'hui, 60 ans après, les décennies étant ce qu'elles sont, hein, à chaque fois, il faut ancrer cette volonté par les militants, par des historiens aussi, hein, qui disent qu'il faut nommer l'histoire. C'est important de nommer l'histoire dans les manuels scolaires, dans une visibilité dans l'espace public. On y reviendra. Des plaques commémoratives, ça aussi c'est important, pour que chacun, chacune voit que dans le métro Charonne, il y a une plaque, quand même. Ça c'est un acquis entre guillemets, mais c'est aussi un acquis de votre collectif, j'imagine, de tous ceux qui se battent pour qu'il y ait une reconnaissance déjà citoyenne. C'est important de dire l'histoire comme ça, aussi au travers des plaques. Il y a une plaque à la mairie de Paris, enfin dans un arrondissement de Paris, dans le 11e.
Oui, non, il y a évidemment des
marqueurs quand même.
Marqueurs, oui, dans le hall de la station de métro, en accord avec la direction de la RATP, et c'est le syndicat CGT de la RATP qui a sollicité, et nous avec, qu'il y ait une plaque commémorative avec le nom des victimes. Des manifestations, ils s'en déroulent dans différents endroits. Par exemple, il va y en avoir une à Drancy où le jeune Daniel Ferry, 15 ans, a été assassiné. Il fait partie des 9 victimes. Il va y en avoir une à Montreuil également. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis fait un débat le 9 février, le lendemain, à la Bourse du Travail de Bobigny. Le syndicat...
On va donner les rendez-vous aussi pour nos auditeurs auditrices.
Oui, le syndicat CGT de ce qu'était la Poste à l'époque, les télécoms, mais aujourd'hui c'est autre chose. Il y a une plaque sur ce qu'était l'immeuble où il y avait là un important dispositif de la Poste. Il y a une plaque pour Claude Godot. Donc il y a différents lieux où il y a cette mémoire qui existe. Mais je veux insister, ce n'est pas que de la mémoire que nous voulons. Mmh. Ce que nous voulons, c'est nous essayons d'intervenir, d'agir pour que l'on reconnaisse la responsabilité de l'État dans ces crimes.
Alors, on va poursuivre dans une troisième partie de notre rencontre sur justement aujourd'hui, qu'attendez-vous de l'État, de la responsabilité de l'État qui doit dire, qui doit nommer l'histoire. Mais peut-être ce regard que l'on peut porter au lendemain, mais c'était pas le lendemain, c'était quelques jours plus tard, le 13 février, il y a près d'1 million de Parisiens, Parisiennes et venus de la banlieue aussi, qui vont à l'enterrement de ces neufs. C'est une dignité, c'est quand même une volonté aussi citoyenne importante.
Ah, oui.
1 million de personnes.
Oui, oui. C'est certainement la plus grosse ou l'une des plus grosses entre guillemets manifestation, parce que là c'était pas une manifestation au sens traditionnel du terme, mais 1 million de personnes, c'est quelque chose qui s'est quasiment jamais vu, peut-être une fois ou deux après la guerre, mais ça a été considérable et ça a été un moment fort du point de vue politique, parce que oui, il y avait les négociations. Mais ces négociations, elles traînaient depuis des années, si je puis dire. Entre le moment en 59, en septembre 59, où De Gaulle a surpris un peu tout le monde en déclarant qu'il était favorable au droit à l'autodétermination du peuple algérien, il a fallu presque un an et demi pour qu'il y ait un référendum populaire. Hein, il a été en janvier 61. Et il a encore fallu 15 mois pour signer l'accord de cessez-le-feu. Et c'est évident que la manifestation avec les obsèques du 13 février ont obligé, accéléré la décision de De Gaulle de relancer les négociations le 14 février, le lendemain, alors qu'il mettait encore des freins pour diviser l'Algérie, pour que le pétrole, le gaz saharien, les installations atomiques du Sahara restent françaises, c'est-à-dire que l'on coupe l'Algérie en deux. Mmh. Et évidemment, mais après les obsèques, il a été obligé d'accélérer.
Un crime d'État, Métro Charente, 8 février 1962. C'est un ouvrage collectif dirigé par le Comité Vérité et Justice pour Charente. Je reçois, je le rappelle, ce dimanche matin, Henri Kuckermann, qui est le président de ce Comité Vérité et Justice pour Charente. On se retrouve dans un instant.
Et l'on entend déjà le printemps refleurir aux branches des lilas. C'est une éternité quand on est amoureux. Tu verras mille étés éclabousser ses yeux. C'est aujourd'hui l'hiver et c'est encore printemps. La nature est au vert lorsque l'on a 20 ans. Marie, oh Marie, je t'aime. Tu es mon premier baptême. Marie, que l'amour me pardonne. On m'appelle à Charente. Appelle à Charonne, et moi je reste là. Ni Dieu ni la Madone n'ont plus d'amour que moi. Ça me brûle le cœur d'une douleur si tendre que c'est encore bonheur pour moi que de t'attendre. Je t'attends comme l'oiseau qui mourut, d'attendre le printemps où il l'avait connu. Charonne, mon Dieu, prends-lui la main. Pour venir de Charonne, il est long le chemin. Quelle est cette rumeur venue du fond des temps? J'ai si froid, j'ai si peur. Daniel, reviens-t'en. Y a notre vie à nous qui dort dedans mon ventre. Les fleurs se mettent à genoux, les fleurs te diseront. Mon que l'amour me pardonne. Je t'attends à Charonne.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Henri Kuckermann, président du comité Vérité et Justice pour Charonne. Un livre a été publié, Un crime d'État à Métro Charonne, 8 février 62, un ouvrage collectif dirigé donc par ce comité Vérité et Justice pour Charonne. Vérité, justice, des mots forts, des mots importants pour cette 60e anniversaire du 8 février 62. C'est ce que vous attendez du gouvernement aujourd'hui. Vous avez interpellé d'abord les candidats aux élections présidentielles. Ça serait intéressant de voir un peu ce qu'ils pourraient suggérer de reconnaissance et de vérité les uns les autres. Peut-être pas tous, bien évidemment, mais en tout cas, une interpellation politique, d'histoire, est importante.
Non, on n'a pas interpellé les candidats. Bon, je pense que ce n'est pas là que se situe l'action que l'on veut mener. Parce que le soutien que les candidats peuvent faire pour la vérité et la justice pour Charonne, c'est de soutenir les actions qui sont menées dans ce cadre-là. Et le fait de faire un courrier et d'avoir des réponses ou pas de réponses, ça n'est pas... On a fait pour ce 8 février 2022, on a lancé un appel à soutenir cette commémoration.
Signé par de nombreuses associations, organisations syndicales et politiques encore.
Syndicales et associations. Et je regrette que certaines organisations politiques, syndicales, n'aient pas répondu. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que chacun prenne ses responsabilités dans le soutien qu'il faut faire pour que cette vérité, cette justice pour Charonne et pour les victimes soit faite. Voilà, et c'est l'objet de notre bataille, de notre combat.
Une reconnaissance, c'est aussi un apaisement ? C'est pour aussi trouver l'apaisement ?
Ben, pour les familles, oui, avec toutes les conséquences. À partir du moment où il y a un crime d'État, l'État est amené, à indemniser. Mais d'un point de vue moral, c'est extrêmement important. Mais ce qui est important, c'est le fait de reconnaître que la guerre d'Algérie, que ces crimes, ceux-là, mais on parle des crimes par en France, comme ceux du 17 octobre ou du 8 février, mais il faut quand même voir qu'il y a eu près d'un million d'Algériens qui ont été tués durant cette guerre, et 30 000 jeunes Français qui ont été tués parce que les forces ultranationalistes et il faut bien le dire, des forces politiques ont voulu maintenir l'Algérie en colonie. Voilà, il y a donc la volonté de faire que la France reconnaisse le crime d'État du 17 octobre comme du 8 février, mais qu'en même temps, elle apporte véritablement une reconnaissance sur ce qui a été fait pendant le colonialisme, et notamment pendant la guerre d'Algérie. Le président de la République, alors qu'il n'était qu'en candidat, avait déclaré à Alger qu'il y avait un crime contre l'humanité. Il s'est un peu détourné.
À Paris, un peu après.
Mais voilà. Il l'a dit. Ouais. Et donc, c'est véritablement l'esclavage comme le colonialisme sont des crimes contre l'humanité.
Dans cette société française aujourd'hui, on dit qu'un Français sur quatre a des liens avec l'Algérie, hein, qui un appelé pendant cette guerre d'Algérie, de la coopération, de l'immigration, de la mixité entre Algériens et Français. Et pourtant, il y a encore cette nostalgie de l'Algérie française, 60 ans après, on l'entend encore, dans des propos haineux, des propos pas réglés de ce que fut la volonté des Algériens d'être indépendants et de et de Français qui étaient aux côtés des Algériens, qui étaient pour la paix en Algérie, pour contre cette colonisation.
Oui.
Mais il existe encore cette nostalgie, c'est terrible, 60 ans après.
Mais voilà, je ne sais pas si c'est une nostalgie. Je pense qu'il y a une filiation de caractère politique entre les ultras de l'Algérie française, l'extrême droite, bien sûr, avec le souhait des pieds noirs de rester en Algérie, enfin, de rester en France, entre guillemets. Mais cela dit, il y a une filiation que l'on retrouve dans les propos aujourd'hui différents, mais des propos identiques, je dirais, sur le fond idéologique, que ce soit de Zemmour ou de Le Pen, ou même d'une partie de la droite, c'est une filiation qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais la population française, elle a été en apathie au moment du déclenchement des événements le 1er novembre, parce que l'histoire fait que la colonie était, les colonies étaient, faisaient partie du patrimoine, entre guillemets, de la France. Mais ils se sont rendus compte progressivement que l'Algérie, ça n'était pas la France, et progressivement se sont détachés de cette opinion pour arriver au référendum qui a dit que 75% était pour le droit à l'autodétermination. Je crois que c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Et condamner aujourd'hui l'OAS, les ultras de l'Algérie française, qui sont ceux qui aujourd'hui permettent à des gens comme Zemmour ou Le Pen de faire cette distinction entre les Français entre guillemets blancs, comme Trump le fait pour les
États-Unis,
voilà. Et voilà. Donc oui, il y a une filiation absolue dans l'idéologie et la politique de la droite, de l'extrême droite et des ultra-Algérie française.
Vous avez rappelé que pour cette 60e commémoration du 8 février 62, il y avait un certain nombre d'initiatives. Le comité Vérité et Justice pour Sharon, avec tous les signataires de l'appel. Vous allez nous donner des rendez-vous pour prochain, le 8 février. Il y a un rendez-vous, rassemblements.
Il y a le rassemblement qui, cette fois-ci, se fait à 18h, parce qu'on a pensé que peut-être les salariés pourrait peut-être se déplacer plus facilement après leur travail. On le faisait d'habitude à 11h, mais c'est pas une heure particulièrement favorable pour ceux qui travaillent. Donc on le fait là, à 18h. À 17h30, il y a le dépôt de gerbe avec une intervention du syndicat CGT dans le hall de la station.
De la RATP au métro Charonne. Donc le rendez-vous est à 18h au métro Charonne.
Oui, à 18h, mais à 17h30, il y a le dépôt de gerbe avec l'intervention du syndicat CGT de la RATP.
Et d'autres personnalités qui prendront la parole
aussi. À 18h, oui, il y a Delphine Renard qui a accepté, c'est la première fois parce que c'est pas son job, si je peux dire. Elle ne parle pas beaucoup publiquement, mais elle a accepté d'être présente à ce 60e anniversaire.
Une victime du 17...
C'est elle qui a été, 62, qui deviendra aveugle.
La petite fille qui a eu...
La petite fillette de 4 ans, qui s'exprimera. Jean-François Gavoury, qui est le président de cette association des victimes de l'OAS, dont je rappelle que le père était le commissaire principal d'Alger, chargé de la sécurité, qui a refusé de se plier aux putschistes et à l'OAS, aux ordres de ces gens-là, et qui a été assassiné par l'OAS et Salon. Voilà, qui prendra aussi la parole. Et puis il y aura le maire du 11e arrondissement de Paris, Fabien Roussel, secrétaire du Parti communiste, et Philippe Martinez, qui est le secrétaire général de la CGT.
Vous serez au rendez-vous, c'est sûr.
Ah, vous-même. Oui. J'espère que il y aura de nombreux citoyens qui seront au rendez-vous ce jour-là.
Et le dimanche, il y a aussi une commémoration au Père Lachaise, c'est important
alors,
aussi de le dire.
Nous avons pour habitude de fleurir les tombes qui sont au cimetière
du Père
Lachaise, face au mur des fédérés. Nous le faisons le dimanche 13, c'est le 60e anniversaire des obsèques, le 13 février 62. Donc, on fera ce dépôt de gerbe à 11h. Sur les tombes.
Et vous avez rappelé tout à l'heure, voilà pour le rendez-vous parisien, vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y avait aussi des commémorations dans les villes
Il y a Drancy, enfin on n'a pas encore tout, mais il y a Drancy, il y a Montreuil, il y a le conseil départemental qui fait ce débat sur...
À la Bourse du Travail à Bobigny.
Il y a aussi à Nantes, il y a... ce qu'on appelait les chèques postaux à l'époque où Anne-Claude Godot travaillait, il n'y a plus, hein, tout s'est transformé maintenant, il n'y a plus de... La poste est en déconfiture, je dirais, voilà, et il y a une plaque qui a été mise sur le bâtiment là, où il y a aussi des interventions, voilà, il y a différents lieux où on honore les victimes et où on rappelle qu'il faut que soit reconnu,
souvenir et soit reconnu aussi
et soit reconnu la responsabilité de l'État.
Mais quand je vous demandais si vous allez interpeller les futurs candidats, il y a une autre forme d'interpellation, c'est l'appel avec les organisations qui signent. Mais le président actuel avait été interpellé dans ces cinq dernières années.
Nous avons régulièrement adressé des courriers au président de la République.
Restez lettre morte.
Par politesse, on recevait, je serais tenté de dire, une sorte d'accusé de réception, hein, courrier très court et autres. Au mois de juin dernier. On a reçu une lettre un petit peu plus explicative qui engage du tout dans le sens que l'on souhaite de reconnaissance, mais qui est une prise en compte de notre interpellation. Nous souhaitons, c'est que cette interpellation, elle aboutisse à une reconnaissance.
C'était le début de ces... contacts que le président actuel prenait avec tout le spectre mémoriel de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire il y avait eu les harkis, il y a eu les appelés, il y a eu les anciens, les descendants du 17 octobre 61, il y avait aussi un peu se rapprocher d'un peu tout le monde pour faire un peu histoire commune.
C'est pas que c'est difficile. Ce qu'il y a, c'est que le président Macron ne souhaite pas s'engager dans une véritable reconnaissance. Et à partir de là, quand il a reçu à l'Élysée les petits-enfants de...
Boumendjel. D'Ali Boumendjel.
Non, les enfants de
Darki.
Darki, etc. Et où il y avait le petit-fils de Salan, ça donne une connotation à ses interventions présidentielles.
Le comité Vérité et Justice pour Charonne, vous le dirigez. Merci infiniment, Henri Cuicamann, d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM. Je rappelle le titre de votre livre, de ce livre collectif, Un crime d'État, Maître Charonne, 8 février 62. Le livre est paru aux éditions Le Temps des Cerises et on donne rendez-vous aux auditeurs, aux auditrices, le 8 février 2022 à 18h au Maître Charonne, pour se souvenir et contre l'oubli. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.